France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Gérard Depardieu jugé pour agression sexuelle. La défense qualifie les accusations de mensongères. L'actrice Anouk Grimbert est venue soutenir les plaignantes. Julie Paco suit l'audience pour France Culture. Appel à la vigilance sur les compléments alimentaires. L'ANSES préconise de n'en prendre que sur prescription médicale. Nous nous pencherons sur les recommandations de l'agence sanitaire avec Tara Schlegel. Des responsables américains et russes discutent d'une trêve maritime en mer Noire entre Russes et Ukrainiens. L'objectif d'un cessez-le-feu généralisé semble encore lointain. Nous irons dans la ville ukrainienne de Soumy, frappée aujourd'hui par les forces russes. La directrice d'ONU SIDA interpelle Donald Trump. Elle tente de le convaincre que la prévention du SIDA rapporte bien plus qu'elle ne coûte et qu'il doit relancer l'aide financière américaine. Nous l'entendrons. Gérard Depardieu, pour la première fois sur le banc des prévenus, l'acteur est jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour agression sexuelle sur deux femmes lors du tournage du film Les Volets Verts de Jean Becker en 2021. Le procès devait initialement se tenir en octobre dernier, mais il a été renvoyé en raison de l'état de santé de l'acteur, âgé de 76 ans. Bonsoir Julie Paco.
Bonsoir Aurélie.
Vous êtes sur place et vous avez vu Gérard Depardieu qui s'est bien présenté aujourd'hui en compagnie de ses proches.
Oui, effectivement, il a fait son entrée dans une salle comble et coupée en deux. Gérard Depardieu, costume noir, sur chemise noire, il a pris place devant le banc des prévenus, accompagné de ses avocats, et derrière lui ses proches, son ex-conjointe Karine Silla et leur fille Roxane Depardieu, l'acteur Vincent Pérez ou encore son actuelle compagne Magda. À chacun d'eux, Gérard Depardieu se retourne pour adresser un sourire, un clin d'œil. Installé sur un tabouret devant les magistrats, il grimace pour se lever et décliner son identité à la barre. Écoutant le rappel des faits qui lui sont reprochés par le président du tribunal, atteinte sexuelle avec violence, contrainte, surprise et menace sur les personnes d'Amélie et de Sarah. Aujourd'hui âgées de 54 et 34 ans, elles étaient respectivement décoratrices et assistantes réalisatrices du film Les Volets Verts de Jean Becker. Une barre du tribunal où défilent ensuite les témoins cités par la défense, près d'une dizaine, déclinant leur identité et leur métier. Éclairagiste, logeur, costumière, directeur de la photo ou actrice, à l'instar de Fanny Ardant, qui fend la salle d'un pas décidé, adressant un regard empli de soutien à l'acteur de 76 ans, Fanny Ardant, qui, comme les autres témoins, sera entendue demain matin, après que le tribunal statue sur la demande de nullité de la procédure réclamée par la défense. Durant 1h46, Maître Assous, avocat de l'acteur, a ainsi fustigé l'enquête menée par l'officier de police judiciaire, un OPJ aux ordres du ministère public qui a piétiné, méprisé, ignoré le code de procédure pénale, s'emporte l'avocat, qui dénonce une à une les carences, selon lui, du dossier. Mais pour les avocats des parties civiles, eh bien, il s'agit une nouvelle fois d'une stratégie dilatoire de la défense pour éviter d'avoir à aborder le fond du dossier, pointe maître Karine Durieux-Diebolt, avant que les magistrats ne se retirent donc pour délibérer sur cette demande de nullité.
Julie Paco avec les moyens techniques de Raymond Albouy en direct du tribunal judiciaire de Paris. À la mi-journée, plusieurs dizaines de militantes féministes se sont rassemblées devant le tribunal pour apporter leur soutien aux plaignantes. Et l'actrice Anouk Grimbert a elle aussi tenu à leur témoigner sa solidarité en assistant à cette première journée d'audience. L'actrice qui avait participé au tournage du film Les Volets Verts dénonce l'impunité dont a bénéficié, selon elle, Gérard Depardieu. Écoutez-la.
Tout le monde sait qu'il est agresseur, que c'est un agresseur. Tout le monde le sait. Et on a même entendu dire de la part de son producteur qu'il fait ça pour se concentrer. Mais enfin, c'est le comportement d'un roi fou, parce que je crois qu'il est devenu fou, à force de ne plus jamais être cadré par personne et d'être constamment... dans un espace hors la loi, il fait la loi, et il abuse, et il détruit, encore une fois, il faut que les hommes, la société, comprennent qu'une agression sexuelle ou un viol, quand on parle de Charlotte Arnoux, c'est des choses qui démolissent pour la vie entière.
L'actrice Anouk Grimbert au micro de Julie Paco, rappelons que plusieurs procédures contre Gérard Depardieu ont été classées pour cause de prescription des faits et un juge d'instruction doit encore se prononcer sur la plainte déposée par la comédienne Charlotte Arnoux. Le parquet de Paris a requis un procès pour viol et agression sexuelle. Les représentants du personnel des usines Michelin de Cholet et de Vannes valident officiellement les mesures d'accompagnement des salariés concernés par la fermeture des deux sites. La CGT a rejeté cet accord, mais il a été signé par la CFDT, par Sud et par la CFE-CGC. Pour les 1254 salariés, le moment est donc venu d'envisager leur vie sans Michelin. Wafia Kenich a rencontré certains d'entre eux devant l'usine de Vannes qui emploie 300 personnes.
C'est l'heure du changement de service. Ceux qui ont commencé à 5 heures quittent l'usine quand l'équipe de relève arrive sur le parking. Un bref salut aux copains et Fabrice se dirige vers l'entrée. À 50 ans, dont 27 chez Michelin, il réalise réellement que son usine va fermer.
En expérience, on a appris à travailler chez Michelin et pas ailleurs. Donc là, il faut se reconstruire, repartir de zéro, c'est pas évident, quoi. On s'attache à refaire des CV, à retourner sur le marché du travail, sans savoir trop où on peut aller, quoi. Se reconstruire ailleurs, c'est d'autant plus difficile que, voilà, moi je m'attachais à Michelin et je pensais que j'allais faire toute ma carrière là, quoi. Avec l'âge, est-ce que les entreprises vont vouloir nous reprendre pour une dizaine d'années? Ça, c'est vrai que ça reste un flou, ouais, c'est terrible, quoi, quand même, comme questionnement, quoi.
Une incertitude encore plus grande depuis que les salariés ont appris que la fermeture de l'usine, prévue initialement en 3 temps, risque d'être avancée à septembre. Christophe Villa, délégué syndical CGT.
Il y a beaucoup de gens qui, du coup, étaient dans des vagues un peu plus lointaines, donc ont pris un peu plus de temps pour préparer leur projet. Là, ils savent que ça s'arrête. Les gens ne voient plus le sens de se lever non plus à 3h30 du matin pour faire leur journée de 5h à 13h. Donc ce qu'on avait aussi demandé, c'est d'aménager un peu les horaires pour que les gens viennent plus tard. Et en plus, éventuellement avoir un impact positif sur les troubles du sommeil qui sont en hausse actuellement par rapport à toutes les inquiétudes que les gens ont avec la fermeture du site et de se projeter sur leur futur, qu'est-ce qu'ils vont faire demain.
Car continuer à se lever au milieu de la nuit, pour Eric, 37 ans, aujourd'hui, ça n'a plus de sens.
On attend que ça, en fait, que ça s'unisse. On en a marre, en fait. On fait rien, en fait. On travaille 8 heures. Enfin, on travaille. On est là 8 heures et allez, on va travailler 30 minutes, quoi. Et non, ça n'a aucun sens. On préférait être chez nous puis qu'on passe à autre chose. C'est un peu prenant, quoi. Des fois, moralement, les négociations viennent d'être signées, donc c'est une bonne chose.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui a été signé? Ça vous convient?
On reste un peu sur notre faim, quoi. Je pense qu'ils pouvaient lâcher un peu plus, quoi.
Une envie de tourner la page, d'oublier Michelin, un groupe qui, en 2024, a réalisé un bénéfice net de 2,7 milliards d'euros.
Un reportage signé Wafia Kenich à Vannes dans le Morbihan. L'État fait appel de l'arrêt du chantier de l'A69. Le 27 février, le jugement du tribunal administratif de Toulouse avait mis un coup d'arrêt au chantier de l'autoroute Castres-Toulouse, contesté par les écologistes. L'État a interjeté appel et demandé le sursis à exécution de cette décision pour permettre la reprise rapide des travaux. En Auvergne-Rhône-Alpes, la lettre de soutien adressée par le député candidat à la présidence du LR, Laurent Wauquiez, aux agriculteurs de la région, lui vaut le dépôt d'une plainte collective. La plainte est déposée par les élus écologistes du Conseil régional, notamment pour détournement de fonds publics devant le procureur de la République de Lyon. Et cet après-midi, Mathilde Imberti, les élus se sont rassemblés devant le palais de justice de Lyon pour rendre visible leur action.
Dans sa lettre début février, Laurent Wauquiez propose une aide juridique aux agriculteurs en cas de litige avec l'OFB. Il s'agit de détournement de fonds publics, selon les élus écologistes, le conseiller régional Pierre Jeannot.
Une assistance juridique, c'est-à-dire payer des avocats chaque fois qu'il y aurait un agriculteur qui serait impliqué dans une procédure qui serait menée par les agents de l'OFB. Ces fonds régionaux vont donc servir à entraver le déroulement normal d'une action de justice qui, de surcroît, est environnementale.
Il n'y avait pas de représentants d'agriculteurs ce lundi devant le palais de justice, mais la Confédération paysanne de 6 départements s'est jointe à la plainte collective contre X, ainsi que la CGT de l'Office français de la biodiversité, et en soutien la CGT du ministère du Travail, son responsable Yann Dufour.
On a eu une réaction de solidarité et de soutien auprès de ces collègues-là qui vont être en très très grande difficulté de par l'existence de ce courrier. Et vous imaginez bien qu'avec un courrier pareil, celui qui est assujetti au contrôle, il peut tout à fait en faire usage oralement et s'opposer à ce contrôle, et donc exposer à ce qu'on appelle des incidents de contrôle.
La plainte donnera-t-elle lieu à des poursuites? Au-delà, c'est un signal qui est envoyé, fait valoir Zérine Bataret, autre élue régionale écologiste.
C'est vrai que pour nous, l'idée, c'est de réveiller un petit peu les consciences. En ces temps où on parle de chute de l'état de droit, où on est tétanisé face à ce qui est en train de se passer aux États-Unis, peut-être qu'il est temps pour nous de réagir, oui, même à l'échelle régionale. Peut-être qu'il est temps de ne plus rien laisser passer.
Après celui de Laurent Wauquiez, François Bayrou, le Premier ministre, avait envoyé un courrier à l'Office français de biodiversité, regrettant des attaques répétées et inadmissibles contre cet organisme.
Mathilde Imberti à Lyon pour France Culture. Les compléments alimentaires ne sont pas anodins. Mieux vaut donc les acheter uniquement sur avis médical. C'est le message que voudrait faire passer l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation. C'est concentré à base de plantes ou d'autres substances que l'on l'on prend pour mieux se concentrer, pour améliorer ses performances, son sommeil ou sa beauté, font l'objet d'une vigilance sanitaire rigoureuse. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Les consommateurs sont invités à déclarer leurs effets indésirables auprès de NutriVigilance. Ce dispositif piloté par l'ANSES travaille chaque année, Tara, sur des centaines de cas.
Oui, en 2024, par exemple, il y a eu 500 signalements à NutriVigilance. Alors, il faut savoir qu'à l'inverse des médicaments, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché préalable à la vente de compléments alimentaires. On ne fournit donc pas d'études sur l'efficacité ni sur l'absence de toxicité du produit, contrairement aux médicaments. L'industriel est responsable de ce qu'il vend, avec des contrôles certes, mais comme dans l'agroalimentaire. En plus, sur Internet, on trouve absolument tout et n'importe quoi en termes de compléments alimentaires. Or, lorsque nous sommes en pharmacie et que nous choisissons des gélules en vente libre, on a parfois l'impression d'acheter un médicament. Or, cela peut être très grave. Fanny Huret, responsable de NutriVigilance, parle d'abord de deux femmes, deux trentenaires, qui ont avalé des gummies à base de vitamines et de minéraux. Mais il y a dû y avoir, dit la responsable, une interaction entre leurs pilules contraceptives et ces compléments.
Des gummies qui étaient destinées à avoir des cheveux brillants, en bonne santé. Et ces deux jeunes femmes présentaient une hépatite, donc une infection du foie très sévère, dont l'une d'elles a conduit à une greffe hépatique. Vous avez dû voir passer en début de mois l'alerte sur les compléments alimentaires contenant du Garcinia cambogia, une plante qui est utilisée dans des compléments alimentaires minceurs, avec en NutriVigilance un signalement de décès qui avait été remonté en 2019 d'une personne qui était décédée. À nouveau, c'était une personne qui n'avait pas d'antécédents médicaux et qui, au bout de 4 semaines, 5 semaines de consommation du complément alimentaire, a présenté une hépatite avec une évolution fatale. Il y avait également des cas de myocardite très sévères avec des greffes du cœur.
38 pays ont signalé donc des effets indésirables à propos de ce complément alimentaire, d'où la demande à l'autorité alimentaire européenne, l'EFSA, de réévaluer les effets de Garcinia cambogia. La plante est interdite dans les médicaments, mais elle ne l'est pas dans les compléments alimentaires.
Tara Schlegel. L'ANSES recommande par ailleurs de ne pas servir en restauration collective les aliments à base de soja, comme les desserts, yaourts, lait, steaks végétaux, tofu et surtout biscuits apéritifs. Ils contiennent trop d'isoflavones, des substances végétales proches des hormones féminines, aux effets potentiellement nocifs pour la santé. Ça n'est pas le cas de la sauce soja, car dans ce cas, la graine a été préalablement bouillie. Nouveau rebondissement dans une affaire qui avait suscité la polémique. La publication du livre sur le mouvement woke par les presses universitaires de France est finalement reprogrammée. La sortie de ce livre, initialement prévue pour le 9 avril, avait été suspendue par la prestigieuse maison d'édition académique. Elle rétropédale donc. Bonsoir Mercia Nezic.
Bonsoir.
Ce projet de livre, Mercia, a suscité beaucoup d'embarras.
Effectivement, l'ouvrage collectif face à l'obscurantisme woke qui a suscité beaucoup d'embarras paraîtra bien le 30 avril prochain aux presses universitaires de France. Un historien et deux professeurs de lettres sont les trois co-directeurs de ce livre. Un livre qui dénonce, je cite, « la pénétration des idéologies décoloniales, des théories de la race et du genre dans les milieux de la recherche ». La maison d'édition avait d'abord décidé de suspendre la publication de l'ouvrage début mars. Une décision que les PUF expliquent aujourd'hui dans un communiqué par, je cite, une campagne de presse qui s'est violemment enclenchée, une campagne qui aurait fait peser sur cet ouvrage le soupçon qu'un mécène d'extrême droite était à l'origine du projet éditorial. D'où vient la polémique? Le milliardaire catholique Pierre-Édouard Sterrin a octroyé des financements à l'Observatoire éthique universitaire dont ferait partie des auteurs de cet ouvrage collectif. Or, la méthodologie de cette organisation qui alerte sur les idéologies du wokisme au sein de l'université est contestée. Cette organisation n'a jamais aidé à l'édition de notre ouvrage par quelque subvention que ce soit, affirme Paul Garapon, le directeur éditorial des PUF, selon Libération. Les auteurs qui contribuent à l'ouvrage ne sont pas tous de la même sensibilité, rajoute-t-il. Les PUF réfutent l'idée de censure, mais parlent plutôt de bon moment pour publier le livre. Le contexte politique national et international actuel a été pointé par la maison d'édition quand la publication a été suspendue. Depuis l'élection à la présidence de Donald Trump, la lutte contre le wokisme de l'administration américaine inquiète la communauté universitaire. Celle-ci dénonce des attaques contre la recherche touchant justement les inégalités sociales et les discriminations raciales aux États-Unis.
Mercia Nezic. Alors que les États-Unis et la Russie discutent de l'Ukraine et de leurs relations en Arabie Saoudite, les Ukrainiens, eux, s'inquiètent de voir Vladimir Poutine négocier l'issue de cette guerre qui a dévasté leur pays. Notre envoyé spécial dans l'est de l'Ukraine, Omar Waman, a rencontré un soldat ukrainien qui n'attend rien de ces négociations. Pour lui, le président russe a fait du mensonge un outil pour restaurer la grandeur passée de la Russie.
Vladimir Poutine, ce sont les Ukrainiens qui en parlent le mieux. Ces dernières années, ils n'ont eu de cesse d'alerter la communauté internationale sur sa capacité à multiplier les mensonges, comme lorsqu'il assure ne pas connaître la milice Wagner, pourtant financée par l'État russe, ou quand il dit ne pas vouloir envahir l'Ukraine, alors qu'il avait massé plus de 200 000 soldats à ses frontières. Pour Anatoly, 23 ans, de retour du front, Vladimir Poutine n'a qu'un seul objectif, redorer le blason de la Russie au prix de la vérité.
C'est un président qui a modifié la constitution russe, qui a lancé une guerre en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie, qui a créé la milice Wagner pour combattre en Afrique. Et quand la guerre a commencé dans le Donbass en 2014, il a déclaré que l'armée russe ne participait pas au combat, que c'était un conflit entre Ukrainiens. Et aujourd'hui, on sait bien que c'est totalement faux. On ne peut pas croire Vladimir Poutine.
Et l'ancien officier du KGB, maître manipulateur, est aussi le maître des horloges. Lors de ces négociations, fort de son alliance avec Donald Trump, il avance ses pions avec la volonté de ne céder à aucune concession.
Omar Waman, soumis dans l'est de l'Ukraine. Rien ne va plus entre les États-Unis et le Groenland. Donald Trump ne cesse de dire qu'il veut conquérir ou annexer ce territoire arctique autonome, toujours rattaché au Danemark. Et plusieurs personnalités américaines ont annoncé leur venue cette semaine. L'épouse du vice-président, Osha Vance, Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale, ou encore le ministre de l'économie. Mais le Groenland n'a aucune envie de voir débarquer ses VIP sur son sol. Isabelle Labéry.
Personne ne les a invités, mais ils viennent quand même. Et au pire moment, le Groenland sort à peine de ses législatives et n'a pas eu le temps de former un gouvernement. Aucune importance, la femme de J.D. Vance dit avant tout vouloir assister à la grande course nationale de chiens de traîneau et s'imprégner de culture locale. Le Premier ministre sortant s'en étouffe d'indignation. Étant donné le contexte, ça n'est pas une visite innocente, dit-il. Et le conseiller à la sécurité nationale, pourquoi viendrait-il ? Il s'agit d'une démarche agressive. Sa seule présence va renforcer la conviction des Américains qu'une annexion est possible et la pression va s'accentuer. À entendre J.D. Vance hier sur Fox News, la pression est à vrai dire déjà au plus haut.
Le Danemark qui contrôle le Groenland ne fait pas son travail et ce n'est pas un bon allié. Donc on doit se demander comment régler ce problème pour assurer notre sécurité nationale. Si ça veut dire qu'on doit s'intéresser davantage au territoire du Groenland, eh bien c'est ce que va faire le président Trump, parce qu'il n'en a rien à faire que les Européens nous crient dessus.
Copenhague ne crie pas mais dénonce aussi ces visites qui, selon le chef de la diplomatie danoise, montre un appétit inapproprié des Américains. Parmi les 57 000 habitants du Groenland, massivement opposés au projet de Donald Trump, la résistance s'organise. Pas de sourire, pas de selfie avec ses visiteurs, demandent les activistes. Surtout, ne laissez pas croire au monde que vous rêvez d'Amérique.
La branche armée du Hamas a diffusé une vidéo de deux otages israéliens enlevés le 7 octobre 2023. On voit les deux otages assis, s'adressant en hébreu à l'un des otages qui a déjà été libéré et lui demandant de raconter ce qu'il a vécu en captivité pour accélérer leur libération. La presse israélienne voit surtout dans cette vidéo une preuve de vie des deux hommes. Les années sida sont-elles derrière ou devant nous, malgré la baisse du nombre d'infections, malgré la découverte de nouveaux traitements et les progrès dans la prise en charge des malades? L'ONU craint une nouvelle épidémie de VIH à cause du gel brutal de l'aide américaine, crucial dans la lutte contre la maladie. Jérémy Lange.
Sur les 40 millions de personnes séropositives dans le monde, la moitié dépendent de l'aide américaine pour leur traitement. Depuis son lancement par George Bush au début des années 2000, le programme américain PEPFAR a permis de sauver 26 millions de vies dans le monde. Tout ça risque de s'arrêter brutalement avec la décision de Donald Trump. La suite, c'est la patronne de l'ONU SIDA, Winnie Byanyima, qui l'explique.
Si l'aide américaine ne reprend pas après la fin du gel en avril et si personne ne la remplace, en 4 ans, il y aura 6 300 000 morts supplémentaires. En 2023, le sida a tué 600 000 personnes, donc on parle d'une multiplication par 10.
Dit autrement, le gel américain, c'est 2000 infections supplémentaires au VIH par jour, de quoi effacer tous les progrès effectués depuis 25 ans.
In the longer term,
à long terme, le risque, c'est de voir la pandémie de sida resurgir au niveau mondial, pas juste dans les pays où la maladie est aujourd'hui concentrée. On parle d'une flambée où nous verrons des gens mourir comme dans les années 90 et les années 2000.
C'est fin avril que l'administration Trump doit dire si elle débloque ou pas son aide internationale. Certains programmes de lutte anti-sida ont reçu une exemption, mais la réalité, c'est que des cliniques ont déjà dû fermer leurs portes et licencier leur personnel. 27 pays d'Afrique et d'Asie sont particulièrement touchés et aucun pays, pour le moment, ne s'est manifesté pour remplacer les États-Unis.
Jérémy Lange, correspondant de RFI et France Culture à Genève. Demain mardi, le temps sera changeant entre éclaircies et passages nuageux. Il pleuvra sur les Pyrénées et sur le sud-est. Les températures minimales seront comprises entre 2 et 10 degrés. Il fera entre 13 et 17 l'après-midi.